Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Qui peut recevoir le baptême ?» Dans deux études récentes, nous avons traité le baptême, un sujet qui est très important dans l'enseignement du Nouveau Testament. Selon la Bible, le baptême se fait pour le pardon des péchés, ce qui veut dire que sans le baptême, une personne est toujours souillée devant Dieu. Elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans un sens réel, si l'on n'est pas baptisé, on n'est pas encore chrétien. Mais qui peut recevoir le baptême ? Dans plusieurs églises, on parle de baptiser les petits-enfants, même les nouveau-nés. Dans ces cas, il faut surtout que les parents ou tuteurs de l'enfant s'engagent à l'élever dans la foi chrétienne. Quant aux adultes, certaines églises procèdent au baptême après leur avoir enseigné des cours de baptême pendant plusieurs mois, ou un catéchisme qui dure pendant jusqu'à 3 ans. Dans d'autres églises, il ne suffit pas de suivre ces cours. Il faut que les dirigeants examinent la vie de chaque candidat au baptême pour s'assurer que la personne mène déjà une vie digne. Selon la rigueur des dirigeants, une personne peut être obligée d'attendre le baptême pendant 10 ans après avoir cru en Jésus, sans jamais être admis. Comme pour toute question religieuse, c'est la Bible qui doit faire autorité pour nous. C'est elle qui peut répondre à la question « Quelles sont les conditions à remplir pour recevoir le baptême ?» Selon Dieu, qui peut être baptisé? Le Nouveau Testament nous parle de 3 choses qui doivent précéder le baptême. Il faut écouter l'Évangile, croire en Jésus comme Fils de Dieu et se repentir de ses péchés. Le fait d'entendre est bien sûr de comprendre l'Évangile, la bonne nouvelle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ est très important. Paul dit en Romains 1, verset 16, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit aux Corinthiens, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. L'apôtre Pierre dit que cette parole est la semence par laquelle nous sommes régénérés ou nés de nouveau. 1 Pierre 1, versets 22 à 25. C'est ainsi que dans le livre des Actes, nous voyons que chaque fois qu'une personne ou un groupe de personnes est baptisé, l'Évangile leur a été prêché préalablement. La deuxième condition enseignée dans la Bible est qu'il faut croire à l'Évangile, croire que Jésus est le Fils de Dieu. Quand Jésus confiait aux apôtres leur mission, il dit en Marc 16, versets 15 et 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La foi et le baptême vont de pair. Au temps biblique, on ne trouvait pas, en principe, l'un sans l'autre. Paul dit en Galates 3, versets 26 et 27, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il ne s'agit pas de 2 groupes différents, ceux qui ont la foi et puis ceux qui ont été baptisés. Dans la pensée de Paul, il n'y avait pas une catégorie de croyants non baptisés. Ceux qui avaient vraiment la foi seraient baptisés, et ceux qui étaient baptisés avaient déjà la foi. C'est ainsi que nous voyons dans le livre des Actes que lorsque les gens croyaient au message, on les baptisait. La Bible dit qu'après la prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Acte 2, verset 41. En Acte 8, l'évangéliste Philippe a prêché dans la ville de Samarie. Les versets 12 et 13 nous disent quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Acte 18, verset 8 parle de la réception de l'Évangile dans une autre ville. Plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le passage qui montre le plus clairement que la foi est la condition principale pour recevoir le baptême se trouve en Acte 8, versets 35 à 38, qui nous parle de la conversion d'un eunuque éthiopien. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Une troisième condition pour le baptême est la repentance. En effet, Jésus avait insisté sur le fait que la nécessité de la repentance serait proclamée comme partie intégrante de l'Évangile. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » En Acte 2, verset 38, nous voyons que Pierre, prêchant à Jérusalem, n'a pas manqué de prêcher la repentance. Quand les Juifs qui avaient cru à son message ont demandé ce qu'ils devaient faire, Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Remarquons que la repentance est la décision ferme et sincère d'abandonner ses péchés et de pratiquer la volonté de Dieu. La repentance a lieu dans le cœur. Son fruit se voit par la suite dans une nouvelle façon de se conduire. Pierre n'a pas exigé que les gens qui avaient cru prouvent qu'ils s'étaient repentis avant qu'on ne les baptise. Le verset 41 nous informe que 3000 personnes ont été baptisées ce même jour. On n'aurait pas eu la possibilité de vérifier qu'ils avaient déjà changé de vie. Évidemment, ils ont dit qu'ils acceptaient de changer et on les a crus sur parole. Cela s'accorde avec la description du baptême en 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand on se fait baptiser, on s'engage à suivre Jésus. Cela veut dire que si quelqu'un accepte que Jésus est le Fils de Dieu, mais que la personne dit qu'elle n'accepte pas d'abandonner son péché sexuel ou son ivrognerie ou ses idoles ou tout autre péché, il serait inutile de la baptiser. Sans la repentance, sans l'engagement, sans le désir de changer de vie, le baptême n'a plus son sens. En fait, la Bible dit clairement que la condition de la personne qui s'engage envers le Seigneur et qui par la suite se détourne pour retourner à une vie de péché est pire que la condition de la personne qui n'a jamais connu la vérité. 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Qui peut être baptisé ? Celui qui entend l'Évangile, croit en Jésus et se repent de ses péchés. Ces conditions doivent être prises au sérieux, mais elles ne demandent pas forcément beaucoup de temps à accomplir. De nombreux exemples dans le Nouveau Testament démontrent que l'on pouvait être baptisé le jour même où l'on entendait l'Évangile, pourvu qu'on y croyait et qu'on était prêt à s'engager. En vue de ce que nous venons de lire, qu'est-ce qu'on peut dire de la pratique moderne de baptiser des bébés? D'abord, les petits-enfants ne remplissent aucune des conditions du baptême. Ils ne peuvent pas écouter et comprendre l'Évangile, ils ne peuvent pas encore croire en Jésus, et ils ne peuvent pas se repentir du péché et s'engager à servir le Christ. En plus, les petits-enfants n'ont pas besoin de se faire baptiser, parce que le baptême est pour le pardon des péchés, et ils n'ont pas encore commis du péché pour qu'il leur soit pardonné. Reconnaissons cela, certains prétendent qu'ils sont souillés par le péché originel, c'est-à-dire le péché commis par Adam dans le jardin d'Éden. En réalité, aucun de nous ne sera jugé au dernier jour pour l'acte d'un autre. Romains 14, verset 12 dit clairement: ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Non seulement l'enfant ne peut pas être condamné pour l'acte de son ancêtre, mais l'action de justice faite par son parent en sa faveur, c'est-à-dire l'engagement pris pour lui dans le baptême, ne peut pas le sauver. Dieu l'a dit par la bouche du prophète Ézéchiel plus de 500 ans avant Christ: l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ézéchiel 18, verset 20. On nous parle parfois de familles entières dont la conversion est racontée dans le livre des Actes, des familles comme celle du geôlier philippien en Actes 16, ou Crispus, le chef de la synagogue de Corinthe en Actes 18. Cependant, rien dans ces passages ne dit qu'il y avait des nouveau-nés dans ces familles-là. Dans le cas du geôlier, il est dit que l'évangile avait été annoncé à toute la famille et que toute la famille s'est réjouie de ce qu'il avait cru en Dieu. Il est aussi précisé que la famille de Crispus a cru, ce qui exclut les bébés. Passons donc au cas des adultes qui ont cru en Jésus et exprimé leur désir d'abandonner le péché, mais que l'on fait attendre des mois et des années avant de les baptiser. Certains disent qu'il faut leur enseigner beaucoup de choses en plus de l'Évangile avant de les baptiser. Par exemple, on leur fait apprendre par cœur les 10 commandements, le Notre Père, le symbole des apôtres et beaucoup d'autres choses. Jésus a dit pourtant en Matthieu 18, versets 19 et 20: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On enseigne suffisamment pour que la personne décide de devenir disciple de Jésus. On la baptise et puis on continue de l'enseigner. Elle n'a pas besoin de tout apprendre avant le baptême, mais elle doit continuer d'apprendre après. D'autres disent qu'il faut observer les candidats au baptême pendant un bon moment pour être sûr qu'ils sont sincères et qu'ils vont rester fidèles. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de juger ceux qui voudraient être sauvés pour décider s'ils sont sincères. Nous ne sommes pas vraiment capables de le faire de toute manière. Nous ne pouvons pas voir dans le cœur des hommes. Dieu ne nous demande pas non plus d'observer ceux qui veulent être baptisés avant de leur permettre d'obéir à l'Évangile. Qu'il s'agisse de juifs ou de païens qui n'avaient aucune expérience dans le service du vrai Dieu, les apôtres n'ont pas imposé une période d'attente à ceux qui désiraient le baptême. Faisons attention de ne pas mettre nos idées humaines à la place de la parole de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui a ordonné le baptême comme une expression de foi et d'engagement, et une condition pour recevoir le pardon de Dieu. D'un côté, ce n'est pas destiné aux enfants, qui ne peuvent pas croire et se repentir. De l'autre côté, il ne faut pas le refuser aux adultes qui croient en Jésus et se repentent de leurs péchés. Ne soyons pas comme les scribes à qui Jésus adressa ses paroles en Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. »